Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza. Bienvenue Stéphanie,
bienvenue Hans.
Arthur et
Leslie.
Leslie.
Leslie. Ok, pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous aurons un direct de un des bateaux de la flottille mondiale du Soumout et par après un entretien, cette fois-ci avec Valérie Alalouf, qui est médecin et qui a travaillé au Rwanda juste avant et après le génocide. Elle va nous raconter de ça. Mais d'abord, on essaie d'appeler Kat. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Alors peut-être qu'on peut commencer avec l'entretien à Valérie et puis on réessaye dans 15 minutes pour avoir 4. Donc l'entretien avec Valérie Alalouf sur le lendemain d'un génocide.
Oui.
C'est interdit d'être ici. Hein.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, simplement ?
Je suis médecin généraliste et je travaille actuellement en maison médicale et en planning familial à Bruxelles. Auparavant, j'ai fait des études de médecine pendant lesquelles j'ai eu de la chance de faire un stage de médecine à l'hôpital de Kigali au Rwanda juste avant le génocide. Puis j'ai obtenu mon diplôme. Et je suis partie à l'étranger avec la Croix-Rouge et avec MSF. Et puis après 10 ans, je suis rentrée en Belgique. Et j'ai encore fait des petites missions, notamment en Cisjordanie et à Gaza.
Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous nous avez dit que vous voyez des similitudes, des choses avec lesquelles vous pourriez faire des comparaisons entre ce que vous avez vu avant et après le génocide au Rwanda et la situation actuelle à Gaza, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Quand je suis partie pour la première fois en mission, enfin, ce n'était pas encore en mission, en stage au Rwanda, à l'hôpital de Kigali, le génocide n'avait pas eu lieu. Le génocide a eu lieu 6 mois après. Il y avait déjà beaucoup de signes qui laissaient penser qu'il allait y avoir des choses horribles. Mais en tout cas, moi, je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la catastrophe qui allait arriver, à quel point on était proche d'un génocide à ce moment-là. Quand j'ai terminé mes études, le génocide a eu lieu. Et je me souviens d'une émission à France 2, je pense, où on montrait les images d'un génocide et à la fin... Le journaliste disait « Les Rwandais vont devoir pardonner ». Et j'ai trouvé ça terrible. Je me disais « Comment est-ce qu'on peut demander, juste après un génocide, à des gens de pardonner. Est-ce qu'on aurait pu demander ça aux Juifs juste après l'Holocauste? Et ça m'a vraiment perturbée, cette question. Je suis retournée au Rwanda. J'ai encore vu des massacres après le génocide. Mais en même temps, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, qui a été une forme de justice qui vaut ce qu'elle vaut, qui était les gachachas. Le Rwanda est loin d'être un pays démocratique, c'est le cas de le dire. Oui. Il se passe encore des choses horribles, des massacres et des tas de choses, mais il n'empêche que cette population a pu continuer à vivre ensemble. Il y a un autre exemple qui est l'exemple de l'Afrique du Sud, petite fille. Je n'aurais jamais imaginé la fin de l'apartheid.
Oui.
Il y a la fin de l'apartheid. On peut dire ce qu'on veut du régime d'Afrique du Sud. Tous les Blancs n'ont pas dû quitter l'Afrique du Sud. Et donc, je pense que malgré ce qui se passe, malgré le génocide, il peut y avoir une solution. Elle ne sera pas là tout de suite, mais pour que solution il puisse y avoir, il faut reconnaître ce qui se passe. Et si on ne reconnaît pas ce qui se passe, s'il n'y a pas un minimum de justice, il n'y a pas de raison que ça cesse.
Oui. Et ce qui a été mis en place au Rwanda, ça venait de quelle initiative ?
Il a fallu, évidemment, des choses venant de l'extérieur.
D'accord.
Je pense qu'il n'y a pas de possibilité. Pour l'Afrique du Sud aussi, il y a eu des pressions extérieures, oui, importantes. Je pense qu'actuellement, on ne peut pas demander aux Palestiniens comme ça de baisser les armes alors qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, alors qu'Israël n'a respecté aucune des décisions qui ont été prises par l'ONU jusqu'à présent. Depuis 1948, les Palestiniens sont les laissés pour compte. Il n'y a pas de justice. Il y a une politique de deux poids, deux mesures, et qui ne va que s'aggravant.
Oui, ouais, et donc c'est intéressant parce qu'il y a effectivement ce poids qui est de l'extérieur, qui est vraiment très important. C'est certainement le cas pour le Rwanda, c'est certainement le cas pour l'Afrique du Sud. Que dire alors de ce qu'il en est à la situation de ce conflit horrible, avant qu'il devienne génocide? On sait que les États-Unis ont un poids certains sur ce qui se joue, mais ça voudrait dire alors qu'il faut espérer que les États-Unis aient aussi sinon un changement de régime, un changement politique, parce qu'autrement ce n'est pas en restant dans la situation dans laquelle ils sont pour le moment que les choses vont s'améliorer.
Une chose quand même qui est importante, c'est qu'on regarde les manifestations qu'il y a partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, dans les pays arabes, on sent un soutien comme il n'y en a jamais eu pour le peuple palestinien.
Ouais.
130 000 personnes descendues dans les rues à Bruxelles il y a une semaine, c'est quand même impressionnant. Les manifestations de plus en plus importantes, y compris de la communauté juive, des communautés juives aux États-Unis, ce n'est quand même pas rien.
Ouais.
Alors j'espère quand même que les gouvernements vont nous entendre, nous qui crions dans les rues, et que nous n'allons pas continuer à être lâches, comme le dit Leila Shahid. Sinon, je ne vois pas d'autres solutions que des massacres qui vont être de plus en plus importants, et une montée de l'antisémitisme également, parce que quand il y a injustice, eh bien l'injustice entraîne plus d'injustice.
Oui, certainement. Est-ce que la question de la reconnaissance, elle est vraiment importante, vous l'avez évoquée tout à l'heure, mais ça vient d'où ? Enfin, je veux dire, ça naît d'où ? De quelle volonté cette reconnaissance, si elle a lieu, qu'il y a lieu un génocide, elle vient d'où ? Elle vient des instances internationales ? Elle vient des populations ? Elle vient...
Pour moi, elle doit venir de partout. Quand, ici... Quand même, maintenant, ça ne fait plus aucun doute qu'en 1948, il y a eu une épuration ethnique. Les historiens israéliens l'ont documenté. Il n'y a plus personne qui peut nier cela. Il faut que ce qui se passe actuellement, on puisse continuer à le documenter, à passer l'information, que les populations le sachent, de façon à ce que les gouvernements puissent arrêter de se cacher derrière la peur de l'antisémitisme, parce que la politique actuelle de l'Europe, des États-Unis, ne fait que engendrer plus d'antisémitisme. S'il n'y a pas de justice, si on ne reconnaît pas que pour le moment il y a un génocide, que ce qui se passe en Israël c'est une colonisation, que nous sommes dans un État qui est un État colonial, eh bien on ne peut pas trouver d'autres de solutions.
Ouais, mettre des mots, mettre les mots justes sur la situation, c'est ça.
Mettre les mots justes sur la situation, reconnaître qu'il y a des victimes, reconnaître que Gaza ce n'est pas le Hamas. Gaza c'est 2,5 millions de personnes, ou ce qu'il en reste. On espère qu'il en restera quelque chose avant que l'Europe décide enfin de sanctionner Israël. Et que l'argent ne serve pas uniquement à construire des cimetières.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez de l'espoir ?
Alors, c'est une question compliquée parce que j'ai un côté très négatif sur ce qui se passe, mais je me dis que en Afrique du Sud, quand j'étais petite, je ne pensais pas qu'il y aurait un jour la fin de l'apartheid. Pour le Rwanda, je ne voyais pas comment la population pourrait continuer à vivre après. Quand je suis retournée au Rwanda quelques mois après le génocide, pour moi, la population se divisait entre ceux qui avaient été victimes du génocide et ceux qui avaient génocidé les premiers. Il y avait, dans la maison où j'ai logé, il y avait eu des massacres, il y avait encore des traces d'impact de balles. Et malgré tout, les gens y vivent. Ils vivent mal, ce n'est pas une démocratie, mais ils sont arrivés à reconstruire quelque chose. Et j'espère vraiment que la population qui vit en Palestine et qui vit en Israël puisse construire quelque chose de plus beau que ce qu'il y a actuellement.
Oui.
Oui, je me demande, quand vous étiez au Rwanda, les personnes avec qui vous avez discuté, comment est-ce qu'elles parlaient en fait du génocide et de l'après-génocide ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens ?
Alors, quand je suis retournée, j'ai notamment recherché la cuisinière qui était dans la maison dans laquelle je vivais avant le génocide. Et elle avait perdu toute sa famille, c'était la seule qui était vivante. Et j'avais ramené pour elle des vêtements et de l'argent. Quand elle a vu cet argent et ces vêtements, elle m'a dit « Mais donne-moi ça petit à petit, parce que ici, maintenant, au Rwanda, vivent beaucoup de Rwandais qui avaient été exilés et qui rentrent. Et, pour eux, ceux qui sont survivants ne peuvent être que les génocidaires. Mais moi, je ne suis pas une génocidaire. Et s'ils voient que j'ai de l'argent, c'est que j'ai participé au génocide. » Et donc, il y avait encore une peur terrible, y compris des personnes qui avaient été victimes du génocide. Une peur terrible, une angoisse terrible. À côté de ça, il y avait pour certains beaucoup le mot amertume n'est pas suffisant. Par exemple, ils avaient très difficile à comprendre pourquoi on mettait des personnes qui avaient commis des actes de génocide en prison et qu'on continuait à les nourrir et que la Croix-Rouge leur donnait des chaussures alors que leurs enfants à eux marchaient pieds nus. Ouais. Ils avaient difficile à comprendre pourquoi on ne les tuait pas tout de suite, pourquoi on ne prenait pas une machette pour... Ouais. Il a fallu du temps pour pouvoir comprendre tout ça. Et il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres, effectivement, de personnes qui avaient participé au génocide par après. Mais ce n'était pas un génocide. Ce n'est pas la même chose.
Oui.
Oui. Ben, je ne sais plus quoi demander, en fait. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore des choses à dire, par exemple, par rapport aux personnes qui sont dans la flottille? Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette idée de prendre des bateaux et d'essayer d'aller jusqu'à Gaza?
Alors, moi, je pense que cette flottille a un rôle très important à jouer. Le rôle qu'elle a, ce n'est pas d'apporter de l'aide humanitaire. Parce que ce n'est pas ça le plus important dans l'action de la flottille, c'est de rendre visible ce qui se passe et de montrer à quel point ce qui se passe est inacceptable. Comment est-ce qu'on peut tirer sur les bateaux de la flottille? Comment est-ce qu'on peut les accuser de terrorisme? Ça montre où en est l'État d'Israël actuellement.
Oui, absolument.
Et donc, j'espère vraiment que la flottille, elle va arriver à Gaza. Et même si elle n'arrive pas à Gaza, elle a, aujourd'hui, elle a déjà gagné, parce qu'elle a déjà montré beaucoup de choses. Et je pense aussi que vous avez, ou vous allez interviewer des gens qui vivent à Gaza, ils pourront dire ce qu'eux ressentent du fait de voir des gens qui essayent de prendre contact avec eux alors qu'ils sont enfermés. Ils sont enfermés à Gaza depuis quand même 2008, avec des difficultés énormes pour voir des gens extérieurs. Quand pour rentrer à Gaza, bien avant le 7 octobre, c'était quelque chose de compliqué. On obtenait les autorisations, n'étaient pas difficiles du côté palestinien, ni du côté du Hamas, ni du côté de l'autorité palestinienne du Fatah. Le problème, c'était du côté d'Israël. Et nous n'avons jamais eu d'autorisation écrite de pouvoir rentrer à Gaza. Chaque fois, c'était des mots. Et puis on arrivait à la frontière, on arrivait au mur, on nous disait « You are not allowed ». Et on disait « Yes, we are ». Puis venaient les discussions, et puis on rentrait à 3, 4, 5, 10 médecins. Et les gens étaient toujours heureux de nous recevoir. Et quand on leur demandait « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?», ce qu'ils nous disaient, c'est témoigner de ce qu'on vit, de notre enfermement. Et je peux vous dire que quand moi je suis sortie de Gaza, alors que je ne suis restée que 5 jours, et que c'était une situation bien moins pire que ce qu'ils vivent actuellement, j'avais une haine profonde, mais vraiment une haine profonde, contre Israël et contre les militaires israéliens. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils ne sont pas plus agressifs, plus violents, plus radicaux que ce qu'ils ne sont? Ils ont été radicaux, ils ont commis un massacre terrible 7 octobre, mais ils ont commis ce massacre contre l'occupant, contre l'occupation. Et contre une occupation qui existe depuis 1948 maintenant.
Et de plusieurs personnes, on a entendu le... On savait qu'un jour ça arriverait, parce que ça devait arriver. On n'avait pas la date, on n'avait pas la forme, mais il était évident que cette cocotte minute un jour allait finir par exploser. Et donc le 7 octobre n'a pas été une surprise pour beaucoup de personnes juives, ici en tout cas, qui nous ont répété que ce n'était pas une surprise. Parce qu'on ne peut pas laisser, parce qu'une situation comme ça ne peut pas perdurer, on ne peut pas... Je veux dire, les êtres humains ne sont pas faits pour vivre de cette façon-là.
Il faut se rendre compte aussi qu'à Gaza et en Cisjordanie, parce qu'il ne faut pas oublier la Cisjordanie, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des gens qui étudient. La population palestinienne est une population qui est terriblement éduquée, exceptionnellement éduquée. Je ne sais pas ce qu'il en reste à Gaza après ces années, mais... J'étais impressionnée par le niveau d'éducation, par la capacité de réflexion et par le non-radicalisme qui doit être maintenant, je suppose que ça doit être beaucoup plus radical que ce que j'ai connu, mais c'est une population qui m'a vraiment impressionnée, mais c'est surtout des gens qui sont comme vous et moi et qui sont en train de mourir aujourd'hui.
Merci Valérie.
Merci beaucoup. Voilà, c'était l'entretien avec Valérie. Nous allons encore une fois essayer d'appeler Kat sur son bateau.
Essayons.
Je pense que ce sera pour une autre fois.
On réessayera.
Oui, on réessayera. Du coup, on arrive à la fin de notre émission.
Oui, peut-être qu'on peut du coup prendre une minute pour revenir sur l'actualité de cet après-midi, qui est en fait l'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien par la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie. Voilà, je pense que ça vaut la peine d'être cité. Que le chiffre officiel des morts depuis l'aube ce matin à Gaza, en Palestine, c'est 55. Voilà. Que la flottille continue son trajet vers Gaza et que vous pouvez la suivre sur le tracker public du site Global Sumud Flotilla. Et que surtout, il faut avoir les yeux dessus parce que c'est la seule chose qui la protège, c'est notre soutien. Et avoir les yeux sur Gaza, sur la Palestine et comme disait Valérie, sur la Cisjordanie. Parce que là aussi, c'est ce qu'il nous reste d'humanité que nous protégeons.
Tout à fait. Demain, nous aurons Nabila pour l'entretien. Nabila, elle est palestinienne de Gaza. Aujourd'hui, elle vit en Turquie. On ne savait pas, mais maintenant on le sait. Et voilà, ça sera pour demain.
Oui, et à demain.
Et à demain.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Belux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.